Chapitre 53. Chelsea, 1992. Après l'annonce de la grossesse de ma sœur, j'allais voir ma mère. « Tu laisses ta fille coucher avec un homme de ton âge? C'est dégueulasse !»«
Ça n'a rien à voir avec moi, » répondit-elle distraitement. « Tout ce que je sais, c'est qu'un bébé va arriver dans nos vies et qu'on devrait tous se réjouir de cet heureux événement. »
Je ne me suis jamais senti aussi seul qu'à cet instant-là. Je n'avais plus de mère, ni de père. Plus personne ne venait nous rendre visite. La sonnette ne retentissait jamais. La ligne téléphonique était coupée depuis plusieurs mois. Quelques jours après la fausse couche de ma mère, quelqu'un était venu et avait frappé des coups vigoureux à la porte, avec insistance, pendant une demi-heure. On nous avait ordonné de rester dans nos chambres tant que l'importun ne partirait pas. Ma mère nous avait ensuite confié que c'était son frère, Karl. J'aimais beaucoup ce jeune oncle, haut en couleur, qui jetait les enfants dans la piscine et racontait des blagues graveleuses qui faisaient froncer les sourcils des adultes. La dernière fois que je l'avais vu, c'était lors de son mariage à Hambourg. J'avais 10 ans. Il portait un costume 3 pièces à fleurs. Penser qu'il était venu jusqu'ici pour nous et qu'on ne l'avait pas laissé entrer me brisait le cœur.
« Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert la porte? Pourquoi ?»« Il ne pourrait pas comprendre nos choix. Sa vie est futile et vaine. »
Je ne répondis pas. Il n'y avait rien à ajouter. Bien sûr qu'il n'aurait pas compris. Personne n'aurait pu comprendre. Au moins, elle se rendait compte de cela. On nous livrait un cajot de légumes par semaine. Nous laissions l'argent dans une enveloppe cachée à côté de la porte. De temps en temps, le livreur sonnait. Ma mère allait ouvrir la boîte aux lettres. « J'avais pas de navet aujourd'hui, mais j'ai mis des rutabagas, ça ira ?»«
Oui, c'est très bien, merci, » répondait-elle avec un sourire.
Une fois les cadavres découverts, ce livreur avait raconté à la police qu'il pensait qu'il s'agissait d'une sorte de congrégation religieuse et que ma mère était une nonne. Il appelait notre maison le couvent. Il n'imaginait pas que des enfants vivaient là, encore moins un homme. J'étais devenu extrêmement solitaire à cette époque. J'essayais de raviver mon amitié avec Finn, si tant est qu'elle ait jamais existé, mais il m'en voulait encore énormément de l'avoir trahi la nuit où il m'avait poussé dans le fleuve. Oui, je sais que j'aurais dû lui en vouloir de m'avoir fait tomber dans la Tamise, mais on avait pris de la drogue, et j'étais insupportable, il faut bien l'avouer. D'une certaine façon, j'avais mérité qu'il me pousse, et la délation qui s'en était suivie résultait bien plus de ma fierté blessée que du danger que j'avais encouru. Et n'oublions pas que j'étais amoureux. Quand on se retrouve dans cet état, on est prêt à tout pardonner. C'est malheureusement une tendance qui m'a poursuivi toute ma vie. Je m'entiche toujours d'hommes qui me détestent. Un après-midi, je tombais sur Clemency dans la cuisine. « Tu étais au courant ?» Elle rougit. Nous ne nous étions jamais vraiment adressé la parole, et je lui parlais du fait que sa meilleure amie et son père avaient couché ensemble.
« Non, pas du tout. »«
Mais vous êtes si proche. Comment ça a pu t'échapper ?»«
Je pensais qu'il faisait du sport, c'est tout. »«
Et tu en penses quoi ?»«
Je trouve ça répugnant. »
Je hochai la tête vivement. Au moins, nous étions sur la même longueur d'onde.
« Ton père a déjà fait ce genre de truc avant ?»« C'est-à-dire ?»«
Coucher avec toutes les filles qui l'entourent ?»«
Non, »
répondit-elle doucement.
« Ma mère, c'est tout. »
Je lui proposais de venir dans ma chambre. Elle hésita un moment, l'air inquiet, ce qui me vexa. Puis je me dis que c'était plutôt une bonne chose d'inspirer la peur si je devais renverser le tyran et nous sortir de cet enfer. Dans ma chambre, je tirais sur le matelas pour l'éloigner du mur et lui montrais les objets retrouvés dans la chambre de David et Birdie. Je les posais sur le sol et la laissais les observer. Je lui dis d'où ils venaient.
« Comment est-ce que tu as pu aller dans leur chambre ?»«
Je ne peux pas te le dire. » Elle avait l'air de plus en plus confuse.
« Ta trousse ?»«
Oui, et il y avait tellement d'autres choses. » Je lui racontais la lingerie fine, le whisky, les billets. Au fur et à mesure que je parlais, elle se décomposait. Comme quand j'avais dit à Finn que j'avais vu son père embrasser Birdie. J'avais fait abstraction du fait que je révélais ces éléments à la fille de David, qu'il partageait un patrimoine génétique, des souvenirs, une connexion que j'étais en train de massacrer avec mes mots.
« Il nous ment depuis le début !»
s'exclama-t-elle en s'essuyant les yeux.
« Je croyais qu'on faisait tout ça pour les pauvres. Je ne comprends plus rien. »
Je plantai mon regard dans le sien.
C'est simple, Clemency. Ton père a volé tous les objets de valeur que possédaient mes parents. Et maintenant, il veut mettre le grappin sur la maison. Normalement, cette maison devrait nous revenir, à ma sœur et moi, quand j'aurai 25 ans. Mais regarde ça.
Je sortis le testament. Un codicille de la main de David y était attaché. On pouvait y lire, dans une langue se voulant officielle, que dans l'éventualité de la mort de mes parents, la maison devait revenir directement à David Sebastian Thompson et ses descendants. Ce codicille avait été signé par ma mère et Birdie. Il n'avait absolument aucune valeur juridique, mais l'intention était très claire.
Il veut un bébé avec ma sœur pour s'assurer que la maison lui reviendra.
Clemency ne dit plus rien pendant un moment.
« Qu'est-ce qu'on va faire ? »
finit-elle par me demander.
« Je ne sais pas encore, » répondis-je en me frottant une barbe de sage que, bien entendu, je n'avais pas.
Ma barbe ne s'est mise à pousser qu'après mes 20 ans et n'a jamais été très impressionnante.
« Mais il faut qu'on agisse. »«
D'accord, » approuva-t-elle en me regardant avec des yeux écarquillés.
« Mais avant tout, il faut que tu me jures que tout ça... ça reste entre toi et moi. »
Je lui montrai tous les objets subtilisés dans la chambre de David et Birdie.
« Tu ne dois rien dire à ton frère ni à ma sœur, à personne. Compris ? » ?»«
Oui, je le jure. »
Après un moment de silence, elle reprit la parole.
« Il a déjà fait ça.
Quoi ?»
Elle baissa les yeux.
« Quand ma grand-mère était très vieille, il a essayé de la forcer à lui léguer sa maison. Mon oncle l'a découvert et nous a obligés à partir. C'est pour ça qu'on est allé en France. »
J'étais sous le choc.
Tu penses qu'on devrait aller voir la police, tout leur raconter ?
Non, répondis-je immédiatement.
Pour l'instant, il n'a rien fait d'illégal, ça ne marcherait pas. Ce qu'il nous faut, c'est un plan pour se tirer d'ici. Je peux compter sur toi ?
Elle hocha la tête.
Tu feras tout ce que je te dirai de faire ?
Elle acquiesça de nouveau. Cette discussion fut l'un des moments décisifs pour nous. Nous aurions pu nous en sortir d'une autre façon, mais puisque toutes les personnes que j'aimais m'avaient tourné le dos l'une après l'autre, je choisis la pire solution de toutes.